Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de passer un moment autour d'une expression très célèbre. Le naturel revient au galop. Peut-être avez-vous déjà prononcé cette phrase vous-même. Elle semble dire quelque chose de très simple. Le naturel revient au galop semble dire que, malgré nos efforts, nous finissons souvent par revenir aux mêmes réactions, aux mêmes habitudes, aux mêmes automatismes, comme si notre nature reprenait toujours le dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pendant longtemps, cette idée m'a laissé une impression étrange, comme si elle semblait imposer une forme de résignation, comme si elle indiquait que certains changements était finalement impossible. Comme si, au fond, nous étions condamnés à redevenir ce que nous étions. À réagir encore et encore de la même façon. Parce que c'est bien connu, le naturel revient au galop. Pour certains, cette phrase laisse encore un espoir de changement. Mais elle prévient que ce ne sera pas facile. Pour d'autres, plus fatalistes, elle signifie simplement « C'est comme ça. C'est la vie. Ce n'est pas à mon âge que je vais changer. » Et pourtant, j'aimerais vous proposer de regarder cette expression autrement. Pas pour la contredire, pas pour chercher à avoir raison, simplement pour regarder. Et nous n'allons pas commencer par une théorie. Nous allons commencer par un voyage. Et nous n'allons pas commencer par une histoire. Nous allons commencer par un voyage. D'abord avec un animal, puis nous retrouverons un chemin dans une forêt. Ensuite, un artisan. Et peut-être qu'au terme de ce voyage, le naturel dont il est question n'aura plus tout à fait le même visage. Lorsque je vais dans le nord de l'Inde, dans la région himalayenne, j'aime regarder les aigles voler. Je fixe parfois mon regard sur l'un d'eux et je me laisse porter par son vol. Imaginez que vous faites de même. Vous apercevez un grand aigle. Pendant quelques instants, il semble presque immobile dans le ciel. Pourtant, il continue de monter. Il ne paraît pas lutter contre le ciel. Il ne semble pas vouloir lui imposer sa volonté. Il paraît simplement connaître quelque chose que nous oublions souvent. Les courants sont là. Les courants d'air chaud en particulier, mais aussi les autres. Ils sont invisibles. On ne peut pas les voir. Pourtant, ils existent. Et l'aigle semble les reconnaître. Il les cherche. Puis, lorsqu'il les trouve, il cesse presque complètement de battre des ailes. Il continue pourtant à monter, majestueux, calme. Dans la vie, il peut nous arriver d'admirer des êtres qui dépensent énormément d'énergie, comme des sportifs, des travailleurs, des animaux capables d'efforts impressionnants. Mais il arrive aussi que nous admirions ceux chez qui quelque chose paraît non pas plein d'efforts, mais juste, simple, posé, accordé. Comme si leur engagement était devenu paisible, comme s'ils accomplissaient pleinement ce qu'ils ont à accomplir, sans dépenser davantage d'énergie que nécessaire. Imaginez maintenant ce même aigle, battant des ailes de toutes ses forces, dans le même ciel. Il bat des ailes de toutes ses forces. Encore. 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 Même lorsqu'un courant ascendant est déjà présent. Alors oui, en battant des ailes, il montrait peut-être malgré tout. Mais en le regardant, nous sentirions presque sa fatigue. Nous aurions envie de lui dire « Regarde, ressens, le courant est déjà là. » Cette scène ne parle peut-être pas seulement des aigles. Elle parle peut-être aussi un peu de nous. Il nous arrive de croire qu'il faut toujours faire davantage, davantage d'efforts, davantage de volonté, davantage de contrôle, davantage d'analyse, davantage de maîtrise, comme si la solution consistait toujours à ajouter quelque chose. Et rien que d'en parler ou d'y penser, cela nous fatigue presque. Comme si quelque chose en nous se mettait déjà au travail. Et pourtant, avez-vous déjà remarqué que certains des plus beaux moments de votre vie ne sont peut-être pas apparus parce que vous faisiez davantage, mais parce que pendant quelques instants, dans ces moments-là, quelque chose avait cessé de forcer. Par exemple, lors d'une promenade, face à un paysage. Une rencontre. Un silence. Une musique. Une présence. Et si vous prenez un instant pour retrouver l'un de ces souvenirs, vous remarquerez peut-être quelque chose. Ce n'est pas seulement que vous étiez plus calme. C'est peut-être aussi que, pendant un moment, quelque chose en vous ne s'était pas contracté. Comme si l'intérieur était resté plus ouvert, plus vaste, plus disponible, Et c'est peut-être précisément dans ces moments-là que certaines qualités humaines semblaient émerger d'elles-mêmes. Dans ces moments-là, par exemple, spontanément vont pouvoir s'élever la patience, l'écoute, la confiance, la douceur, la créativité, la présence. Dans ces moments-là, vous n'aviez probablement pas décidé de fabriquer ces qualités. Vous n'étiez pas en train de vous répéter « Maintenant, je vais être présent » ou « Vous n'étiez pas en train de répéter « Maintenant, je vais être davantage à l'écoute ». Ces qualités étaient simplement là, d'elles-mêmes, comme par surprise. Comme si elles avaient trouvé davantage de place où se manifester. Comme si pendant un instant, rien ne les empêchait d'apparaître. Par magie, diraient certains. Mais ce n'est pas de la magie. C'est concret, réel. C'est que votre intériorité ne faisait pas obstacle à leur émergence. Alors, une question se présente. Et si le reste du temps, ces qualités n'avaient pas disparu? Et si elles étaient parfois simplement moins disponibles? Comme si quelque chose venait momentanément les voiler. Je crois que nous connaissons tous ces moments où quelque chose se resserre en nous, comme lors d'une remarque, une inquiétude, une contrariété, une peur, un conflit. Parfois même une simple pensée. Et presque sans nous en apercevoir, dans ces moments-là, quelque chose se resserre. Le corps, le regard, les pensées, le temps lui-même semble se rétrécir. Nous continuons à agir, nous continuons à parler, nous continuons à prendre des décisions, mais nous n'habitons plus tout à fait la situation de la même manière. Nous l'habitons depuis le lieu de la contraction. Dans ces moments-là, notre attention se fixe. Notre respiration devient parfois plus courte. Nous voulons nous protéger, répondre, convaincre, contrôler, comprendre immédiatement, trouver une solution. Tenir le coup. Et au fond, ce moment de crispation peut être évident ou très discret. Il peut durer quelques secondes ou s'installer pendant des heures, des jours, parfois davantage. Et lorsque ce point de crispation prend de la place, certaines qualités deviennent plus difficiles à rejoindre. La patience est peut-être encore là, mais elle ne vient plus facilement. La clarté existe encore, mais elle se brouille. La douceur n'a pas disparu, mais elle semble plus lointaine. L'humour, l'écoute, la confiance ou le discernement ne sont peut-être pas perdus non plus. Ils deviennent simplement moins disponibles. Ce ne sont pas toujours les situations qui voilent nos qualités. Ce qui voile nos qualités, c'est souvent la manière dont nous nous contractons en habitant les situations. Cette phrase est importante. Ce qui voile nos qualités, c'est souvent la manière dont nous nous contractons en habitant les situations. Cette phrase ne signifie pas que les situations n'ont aucune importance. Certaines situations sont réellement douloureuses. Certaines situations exigent une réponse ferme, structurée, réfléchie, planifiée. Certaines situations demandent de partir, de dire non, de protéger, de décider ou d'agir. Mais moins se contracter ne signifie pas devenir passif. Moins se contracter ne signifie pas tout accepter. Moins se contracter signifie peut-être retrouver davantage de liberté intérieure pour discerner ce que la situation demande réellement. Car lorsque la contraction prend toute la place, nous réagissons souvent depuis ce que nous connaissons déjà. C'est-à-dire qu'on réagit depuis nos peurs, depuis nos habitudes, depuis nos réflexes. On réagit depuis nos protections, depuis les chemins intérieurs les plus anciens, ceux qui nous sont familiers. Imaginez maintenant un sentier dans une forêt. Pendant des années, des centaines de personnes ont emprunté le même passage. Et à force d'être parcouru, le chemin est devenu visible, évident, facile à suivre. Il suffit presque de s'y engager sans réfléchir. Puis un jour, quelqu'un décide de créer un nouveau passage en parallèle. Le nouveau chemin existe dans l'intention de cette personne, mais l'ancien chemin existe déjà sur le terrain. Et il est marqué. Dégagé, familier. Et la personne qui veut créer ce nouveau chemin, qui se lance sur un nouveau chemin en parallèle, au moindre moment d'inattention, ses pas retrouvent naturellement l'ancien sentier. Nos habitudes fonctionnent souvent ainsi. Nos réactions ont parfois été répétées pendant des années. Certaines nous ont protégés. Certaines nous ont aidés à traverser des moments difficiles. Certaines sont devenues si familières que nous avons fini par les confondre avec notre nature. Mon intention est récente. Mon automatisme est ancien. Mon intention est récente. Mon automatisme est ancien. Ces deux phrases ne servent pas à nous décourager. Elles permettent peut-être au contraire de porter un regard plus juste et plus doux sur nos difficultés, face au changement, face au naturel qui revient au galop. Le problème n'est pas toujours un manque de volonté. Le problème est parfois simplement que certains chemins disposent de nombreuses années d'avance. Et lorsque nous nous contractons, nous reprenons plus facilement les chemins déjà tracés. Le regard se rétrécit, le choix semble diminuer, le naturel revient au galop. Mais peut-être que ce qui revient n'est pas notre nature la plus profonde. Peut-être que ce qui revient, ce sont surtout nos passages les plus familiers, nos automatismes, nos anciens modes de protection. Alors la question change. Il ne s'agit pas seulement de demander comment devenir une autre personne ou comment empêcher la nature de revenir au galop. La question devient plutôt comment créer les conditions pour que nous ne soyons pas toujours ramenés vers les mêmes chemins. Comment créer les conditions pour que nous ne soyons pas toujours ramenés vers les mêmes chemins. Comment créer les conditions pour que le naturel ne revienne pas au galop. Comment reconnaître plus tôt le mouvement de contraction qui réduit notre liberté intérieure? Et comment retrouver suffisamment d'espace pour que d'autres réponses deviennent possibles? Imaginons maintenant un jardinier. Parce que l'analogie du jardinier peut nous aider. Imaginez que le jardinier observe une jeune plante. Il aimerait la voir pousser plus vite. Alors chaque jour, il tire légèrement sur la tige. Son intention est bonne. Il veut aider la plante à grandir. Mais de cette façon, elle ne poussera pas plus vite. Elle risque même de s'abîmer. Cela ne signifie pas que le jardinier ne doit rien faire. Au contraire. Un jardinier habile va regarder autrement. Il va regarder la lumière, l'eau, pour voir s'il y en a trop ou pas assez. Il va regarder la terre, la qualité de la terre, sa structure, sa richesse. Il va considérer le vent, voir s'il n'y en a pas trop, s'il est trop chaud, trop froid. Il va considérer les racines, la température ambiante, l'espace disponible pour la plante. Bref, le jardinier ne cherche plus à fabriquer directement la croissance. Il cherche à créer les conditions qui lui permettront d'émerger. Eh bien, il en va peut-être un peu de même pour nous. Nous passons parfois beaucoup de temps à tirer sur la plante, à forcer, à tenir, à réagir, à nous corriger, à nous reprocher de ne pas être assez patient, assez confiant, assez calme, assez discipliné, assez doué, pas assez ceci ou cela. Alors que notre attention pourrait aussi se porter sur les conditions qui permettraient aux qualités attendues de se manifester d'elles-mêmes. Ces conditions, on peut les identifier. On peut s'entraîner à les identifier. Par exemple, en se demandant « Qu'est-ce qui en moi se contracte ? Qu'est-ce qui entretient cette contraction ? Qu'est-ce qui lui donne tant de place ? Et que devient mon expérience lorsque pendant quelques instants, je n'ai plus besoin de pousser aussi fort ? » Peut-être ces qualités ont-elles surtout besoin que ce qui les voile perde un peu de sa force. La contraction ne crée pas nos qualités. La contraction ne détruit pas non plus nos qualités. La contraction peut simplement voiler momentanément la disponibilité de nos qualités. Et lorsque ce voile commence à se desserrer, alors la patience peut apparaître. La présence peut revenir. La clarté peut redevenir accessible. Non parce que nous sommes devenus quelqu'un d'autre, mais parce que nous habitons la situation depuis un lieu intérieur un peu moins contracté. Si on étudie la profondeur des grandes voies spirituelles, on voit que cette question est au centre de toutes ces voies. Depuis plusieurs années, j'ai entrepris de modéliser des approches qui s'appuient sur ces traditions tout en restant non religieuses et simples. De façon pratico-pratique, ces approches tentent de répondre à la question « Comment créer les conditions pour que cette contraction se relance moins souvent ?» Ou « Comment créer les conditions pour que cette contraction prennent moins de place. Comment retrouver un lieu intérieur suffisamment ouvert pour voir ce qui se passe avant de repartir automatiquement dans l'ancien sentier? Alors, je ne parle pas nécessairement de passer par de longues heures d'analyse pour arriver à répondre à ces questions, de façon pratico-pratique. Et il arrive même que l'analyse devienne une nouvelle manière de pousser. Donc l'analyse n'est peut-être pas indispensable et est peut-être même parfois... Donc l'analyse parfois est utile, mais elle est aussi souvent contre-productive. Parce que l'analyse, c'est quelque part une façon de vouloir comprendre plus vite. L'analyse est parfois une façon de chercher immédiatement la bonne réponse. Alors que parfois, il est utile de commencer autrement. faire une pause, peut-être stratégique. Pas simplement une interruption dans l'emploi du temps. Pas seulement quelques minutes sans activité. Pas seulement un jour ou deux de repos. Une pause plus profonde. Et au cœur même de votre quotidien tel qu'il est. Une pause qui serait un moment où certains mécanismes habituels cessent, au moins un instant, d'être continuellement alimentés. Car pour observer clairement, il faut que quelque chose fasse suffisamment pause. Et il existe un fait étonnant. Le simple fait d'entrer dans une pause profonde peut déjà agir. La contraction perd parfois un peu de sa force. Le regard s'élargit. Le corps se desserre. Les pensées ne disparaissent pas nécessairement, mais elles n'occupent plus tout l'espace. Et dans cet espace, nous pouvons commencer à reconnaître, à discerner, à voir plus tôt, à ressentir plus tôt. Non pas pour contrôler chaque réaction, mais pour ne plus être entièrement emporté par elle. Pour sentir ce moment très discret, comme si les mécanismes intérieurs étaient perçus et se dilataient, comme s'il y avait plus de temps ou d'espace entre ces mécanismes, d'un moment à l'autre, pour sentir ce moment très discret, juste avant que la contraction n'émerge et ne se referme complètement. Comme le moment où une main commence juste à se fermer. Quand elle commence juste à se fermer, avant que le poing ne soit fermé, à ce moment-là, la main a la possibilité de se réouvrir en douceur. Découvrir ce moment ne signifie pas réussir à rester toujours ouvert. Ce n'est pas un nouvel objectif de perfection. C'est simplement devenir plus familier avec ce qui se joue. C'est-à-dire reconnaître le mouvement intérieur, l'habiter autrement et parfois ne plus avoir besoin de suivre la contraction jusqu'au bout. C'est au cœur de cette recherche qu'est née l'approche tenir sans forcer, une approche qui ne cherche pas d'abord à changer les personnes, elle cherche à mieux comprendre les conditions dans lesquelles les qualités deviennent plus ou moins disponibles. L'approche tenir sans forcer ne propose pas de supprimer tout effort, parce que l'effort est parfois nécessaire, précieux, noble même. Mais l'aigle nous a peut-être rappelé quelque chose. Tous les efforts ne sont pas utiles. Certains nous permettent d'avancer, d'autres nous épuisent, sans vraiment servir ce que nous cherchons réellement. Avons-nous l'obligation de nous épuiser pour réussir ce qu'on entreprend? Avons-nous l'obligation de nous épuiser pour assumer nos responsabilités? Avons-nous l'obligation de nous épuiser pour honorer nos relations? Tenir sans forcer, ce n'est pas renoncer à monter. C'est apprendre à reconnaître les courants. Ce n'est pas abandonner le jardin. C'est cesser de tirer sur la plante. Ce n'est pas nier l'ancien sentier. C'est voir qu'il n'est peut-être pas le seul chemin possible. Et c'est aussi découvrir peu à peu une manière d'habiter les situations où la contraction se relance moins souvent, moins fortement et moins durablement. Tenir sans forcer, c'est donner une autre place à la contraction. Avant de nous quitter, prenons simplement un instant pour regarder le chemin parcouru ensemble. Aujourd'hui, nous avons peut-être découvert que certaines de nos réactions ne disent pas toujours qui nous sommes profondément. Nous avons vu que certaines qualités semblent parfois disparaître, alors qu'elles deviennent peut-être simplement moins disponibles. Nous avons observé qu'il existe des moments où quelque chose se contracte en nous et que cette contraction peut voiler momentanément ce que nous avons de meilleur. Nous avons aussi entrevu qu'il peut être possible d'habiter certaines situations autrement, non pas en luttant davantage, mais en créant peu à peu les conditions où cette contraction se relance moins souvent. Et peut-être avez-vous déjà commencé à en faire l'expérience. Simplement, en prenant le temps d'écouter jusqu'ici. Si cette manière de regarder la vie résonne en vous, si vous sentez qu'elle ouvre un espace, alors j'aimerais vous inviter à poursuivre cette exploration. J'ai créé un parcours qui s'appelle la marche Getshe. Ce n'est pas une méthode pour devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un programme pour se corriger. Ce n'est pas non plus une invitation à se retirer de la vie. C'est une autre façon de faire une pause. Au cœur même de votre quotidien tel qu'il est. Une manière de marcher ou simplement de vous asseoir et de laisser certains efforts devenus inutiles, se déposer progressivement. Les méditations peuvent être écoutées en marchant, mais elles conviennent aussi aux personnes qui préfèrent rester dans un fauteuil ou sur un coussin de méditation. Aucun prérequis n'est nécessaire. Il n'est pas nécessaire de savoir méditer. Il n'est pas nécessaire de réussir à faire le vide. Il n'est pas nécessaire de produire un état particulier. Vous pourrez simplement écouter, marcher si vous le souhaitez, ou même conduire, et observer ce qui devient peut-être un peu plus visible lorsque certains mécanismes font pause. La marche Getshe ne vous promet pas que vous ne vous contracterez plus jamais. Elle vous invite à devenir plus familier avec ce qui existe avant la contraction, avec ce qui demeure lorsque celle-ci perd un peu de sa force. La marche Getshe vous propose de vous familiariser avec les qualités qui peuvent alors redevenir naturellement disponibles. Pour découvrir la marche Getshe, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. La première méditation vous sera offerte. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre première marche était simplement d'écouter jusqu'ici. Et c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite une très belle route.